Classique 21. You rock.
Classique 21, soundtrack, avec Laurent Deboeuf.
Captain Fantastic, raised and regimented, hardly a hero. Just someone whose mother might know. Very clearly a case for cornflakes and classics. Two teas, both with sugar, please. In the back of an alley. While little dirt cowboys turn brown in their saddles, sweet chocolate biscuits and red rosy apples in summer. For it's hey, make and hey, mom, do the papers say anything good? All the chances in life for little dirt cowboys. Should I make my way out of my home in the woods? Brown dirt cowboy, still green and growing, city slick captain. Fantastic the feedback, the honey, the high.
Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy qui nous ouvre notre deuxième heure de Soundtrack ce matin. Merci d'être avec nous, de nous accompagner. Merci encore aussi d'avoir été si nombreux hier soir au Country Hall de Liège, et force et courage à ceux qui se sont déjà levés tôt ce matin pour pouvoir écouter l'émission. Bon, on dormira plus tard, c'est pas grave. Dominique est avec nous. Bonsoir Dominique.
Bonsoir, vous avez dit bonsoir. Non, c'est vrai qu'on n'a pas eu une nuit très très longue.
On est un peu décalé. Bon, on va pas nous en vouloir.
Allez, la tête un peu, voilà.
Un peu à l'envers.
Bonjour Laurent, bonjour tout le monde.
Alors, ceci dit, on est ensemble ce matin pour la première spéciale de ce dimanche, et c'est une spéciale qui est donc consacrée à cet album de Elton John dont on vient d'écouter la plage titulaire et qui fête son 50e anniversaire.
Oui, plage titulaire et titre d'ouverture de ce 9e album studio pour Elton John qui commence à se remarquer par une caractéristique plutôt assez rare chez lui, une guitare acoustique avec un son très country. Alors là, c'est peut-être un petit clin d'œil probablement au lieu d'enregistrement de ce disque. Nous sommes en 74 sur les hauteurs du Colorado, au fameux studio Caribou Ranch, un studio à quelques heures de route de Denver, un petit peu isolé, niché dans un paysage à la Shining de Kubrick, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. C'est là par exemple aussi que l'album de Supertramp, Even in the Quietest Moment, a été enregistré, avec cette pochette avec ce piano sous la neige qui avait été photographié là-haut sur les montagnes. Et donc si Elton John a choisi un tel lieu pour concevoir cet album, c'est sans doute pour pouvoir fuir le showbiz et toutes ses pressions. À l'époque, il est quand même au sommet de sa carrière, c'est une superstar qui est devenue au firmament de sa carrière avec ses shows déjantés durant lesquels il saute sur son piano, fait le poirier, endosse des tenues complètement excentriques. Par exemple, pour se rendre compte à quel point il était superstar, à l'époque, entre 72 et 75, il a réussi à placer 7 albums sur 8 dans le top 10 américain.
Alors
pour se donner une idée de l'importance qu'il avait dans la pop culture en ce début des années 70, Elton John, à ce moment-là, représente à lui tout seul 2% de la totalité de l'industrie musicale mondiale. Il peut à peu près tout se permettre. Et donc, tout se permettre, ça veut dire aussi un album concept, car cet album, Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, ce n'est pas un disque comme les autres, c'est l'histoire du tandem Elton John Bernie Taupin, leur autobiographie musicale. Elton, c'est le Captain Fantastic, c'est lui, et Bernie, c'est Brown Dirt Cowboy, c'est son complice de toujours. Et à travers chaque chanson, ils racontent leur parcours, leurs galères, leurs rêves aussi, et les sacrifices qu'ils ont dû faire pour en arriver là. Alors, la naissance de cet album qui a 50 ans, figurez-vous qu'elle a eu lieu sur un bateau.
Oui.
Et pas n'importe lequel. Alors,
je
recontextualise un petit peu. Alors, le capitaine Elton John a pris sa troupe avec lui, avec qui il tourne sans relâche depuis plusieurs années, et il décide à ce moment-là de faire comme une pause avant d'enregistrer leur nouvel album aux États-Unis, d'embarquer sur un paquebot de luxe. C'est le France.
J'allais le dire. J'étais pas sûr, mais j'allais le dire.
Et sur le paquebot, il réserve une suite, la plus grande suite de luxe, avec dans cette suite un piano. Et le challenge, c'est qu'en fait, ils ont 6 jours le temps de traverser cette traversée entre l'Europe et l'Amérique pour concevoir cet album ensemble avant de pousser les portes du studio. Alors, c'est une sorte de résidence transatlantique pour composer, écrire et répéter. D'autant que ce genre d'extravagance ne sera plus possible puisque Elton John et sa troupe sont à bord de la dernière traversée en septembre 1974 de ce paquebot France.
Qui a été vendu par la suite et pleuré par Michel Sardou.
Voilà. Ne l'appelait plus jamais France, oui. Et donc, c'est dans cette atmosphère qu'Elton John et Bernie et aussi le batteur Ray Cooper vont concevoir, par exemple, la chanson Someone Save My Life Tonight, une chanson qui est une évocation de ce moment dans la jeunesse d'Elton John où il a failli se marier avec une femme, Linda Woodrow, et avec qui il partageait à l'époque en colocation un petit appartement avec Bernie Taupin. Someone Save My Life Tonight, morceau, je dirais, qui navigue du côté de la Pocket Symphony avec des arrangements absolument somptueux.
When I think of those East End lights, muggy nights, been there, sitting like a princess perched in her electric chair. And just one more beer, and I don't hear you anymore. We've all
Someone Saved My Life Tonight, extrait donc de Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, cet album qui fête ses 50 ans ici et dont on a consacré une spéciale avec notre ami Dominique Ragueb. C'est une époque où il pouvait tout se permettre, hein, vous le disiez tout à l'heure, il ne s'en privait pas. Et alors ici, quand vous aviez annoncé cette chanson, vous aviez utilisé un terme assez particulier.
Pocket Symphony.
De quoi s'agit-il?
Pocket Symphony, c'est-à-dire que sur la durée d'un morceau, bon, ici on est quasiment à 6 minutes, on a l'expression d'une symphonie avec un début, un milieu, une fin, avec des arrangements, avec des hauteurs justement de dynamique de son, avec aussi toujours ces arrangements très violents, comme si on écoutait une symphonie, mais quand on dit Pocket Symphony, c'est-à-dire qu'une symphonie, il y a plusieurs mouvements en fait qui peuvent durer toute la symphonie, une vingtaine de minutes, voire 30 minutes, ça dépend des symphonies, mais là, en quelques minutes, on réussit à faire une symphonie, une Pocket Symphony, comme on dit dans le jargon. C'est vrai que Elton John et Bernie, quand ils travaillent toujours à quatre mains. Et quand ils ont commencé à travailler, ils avaient justement pas dans l'optique de faire des tubes, mais juste de raconter quelque chose d'authentique. Elton John, paraît-il, voulait absolument enregistrer live avec son groupe, pas de superflu. Et même si les arrangements ici, on l'a entendu, sont extrêmement soignés. Ils sont signés d'ailleurs par Jane Page, collaborateur des plus grandes stars de la soul music. Il a travaillé avec Marvin Gaye, avec les Temptations, avec Aretha Franklin. Alors quand je dis authentique, c'est-à-dire qu'il y a du vrai en fait. Et quand il chante, on vient l'entendre, Someone Saves My Life Tonight, quand il a terminé, paraît-il, d'interpréter cette chanson en une prise, il y a eu un silence lourd, respectueux, presque sacré, dans la cabine. Toute l'équipe, à ce moment-là, a compris qu'il s'était passé quelque chose de profond, de douloureux. C'est une histoire d'amour raté, mais le résultat était plus que solaire. Pour preuve, à sa sortie, le disque s'est classé directement numéro 1 aux États-Unis, un exploit. Alors, je le disais, même si les arrangements sont riches, cependant, ils sont jamais étouffants. Il n'y a pas de surproduction. Tout a été joué vraiment ensemble, comme une seule entité, comme un groupe, en fait, dans lequel on y retrouve t'avais John Stone à la guitare, Dee Murray à la basse, Nigel Olson à la batterie, une cohésion qui donnait vie véritablement à chacun de ces morceaux. Des morceaux parfois très bruts dans leur traitement, un petit peu comme les premiers titres des pionniers du rock and roll. Je pense à un titre sur cet album, Gotta Get a Ticket Mill, ou encore, on parlait à l'instant de Nigel Olson, le batteur, avec le morceau Better Off Dead, chanson qui parle des virées tard dans la nuit de Bernie et d'Elton lorsqu'ils avaient terminé de travailler en studio, leur session, et qu'ils allaient traîner du côté de West End, donc à Londres, du côté de Covent Garden, Bond Street, etc. Et qu'ils avaient faim après une longue répétition, qu'ils allaient dans un snack burger, et puis là, ils s'installaient à une table et ils observaient la faune. Et qu'est-ce qu'ils voyaient? Plutôt des mines déconfites, tristes, presque des morts-vivants, d'où le titre.
Ah voilà, et ce titre que l'on va écouter juste après cette petite pause.
Classique 21, 9h midi, Soundtrack.
There was a face on a horn that someone had drawn on. And just enough time for the night to pass by without warning. Away in the distance, there's a blue flashing light. Someone's in trouble, some bad night. As the flickering neon stands ready to fuse, the wind blows away all of yesterday's news. Well, they've locked up their daughters and they've battened the hatches. They always could find us, but they never could catch us. Through the grease-streaked window of an all-night cafe, we watched the arrested get taken away. And that cigarette haze is ecology beat, as the horns and the drums falling from the street. Thank you.
Dead, donc ces morts-vivants de fin de soirée que Elton John pouvait voir avec les autres musiciens qui l'accompagnaient sur cet album ici, un Captain Fantastic et The Brown Dirt Cowboy, lorsque eux avaient fini leur travail et qu'ils allaient tard dans la nuit manger. Il y avait toutes les mines des confites que vous expliquiez tout à l'heure. Et c'est un morceau, je pense qu'il y a eu plusieurs versions aussi.
Oui, il y a plusieurs éditions d'ailleurs de cet album Captain Fantastic et The Brown Dirt Cowboy, notamment l'édition de 1995. Mais on va y revenir d'ici quelques instants parce que évidemment c'est un album qui a excessivement bien marché et qui se vend toujours et encore. Il y a même eu une suite il y a quelques années, le deuxième chapitre en quelque sorte de cet album, la suite des aventures de Bernie et d'Elton. Mais au-delà des chiffres, cet indice a quand même marqué un tournant dans la carrière d'Elton John, parce qu'il a pu prouver qu'il n'était pas seulement un showman flamboyant, mais qu'il était aussi un artiste, je dirais, profond, capable de se livrer sans filtre. On l'a vu notamment avec le biopic. Et puis c'est un album peut-être qui est le plus personnel pour Elton John. Et puis c'est un disque qui a eu une influence majeure sur des artistes comme Billy Joel, ou encore plus tard Rufus Wainwright, qui ont toujours évoqué cet album en disant que ça a été vraiment leur modèle, ça a été vraiment pour eux une référence. Un album qui ici raconte quelque chose. C'est pas juste un enchaînement de hits. Alors au-delà de la richesse des compositions, il y a aussi sur cet album de nombreuses prises de risques, parce que c'est du rock, de la pop, mais qui intègre beaucoup aussi de grands ensembles vocaux. C'est vrai qu'ils sont un petit peu inspirés de ce qu'on peut appeler l'opéra rock, Tommy entre autres. Mais si on se focalise sur les chœurs, eh bien on se rend compte que ça va beaucoup plus loin qu'un simple habillage. C'est pas seulement pour faire joli, ça ajoute vraiment quelque chose de plus. Et je dirais que quand on écoute bien cet album d'Elton John, on peut faire un rapprochement avec ce qui se fera 3 ans et demi plus tard par le travail de Bob Ezrin sur The Wall de Pink Floyd, avec ses chœurs. Il y a vraiment un lien entre les deux si on écoute les deux à la suite. Je vous invite à écouter les deux à la suite, vous allez voir, il y a un petit, pour moi en tout cas. Personnellement, voilà, c'est mon avis, il y a un lien. C'est pour ça que je disais que cet album d'Elton John a marqué vraiment les esprits. Et puis c'est un disque qui se referme avec Curtains. Alors, il paraît qu'Elton John déteste ce morceau. Il dit que c'est a crap. C'est comme ça qu'il dit, le trait de crap. C'est un peu détritus. Et d'ailleurs, sur la version originale, le morceau était associé à un autre titre qui s'appelle We All Fall In Love Sometimes. Et donc, en fait, il n'y avait pas le même nom de plage. Si vous avez, selon les différentes versions, justement, il y a plusieurs versions. Et notamment sur la dernière version qui est sortie en 1995, sur laquelle on y retrouvait deux reprises, de John Lennon, puisqu'on le sait, Elton John est un grand fan de John Lennon, puisqu'il reprend Lucy in the Sky with Diamond, et puis aussi un autre titre de John Lennon. Alors justement, ce morceau Curtains a quelque chose de très Beatlesien quand on l'écoute, avec dessus du clavecin, il y a un côté psyché, il y a du synthé, du mélotron, et tout ça ensemble, c'est-à-dire plusieurs synthés, plusieurs claviers différents avec des sons différents, et puis il y a aussi une cloche qui revient régulièrement. Et puis, si on tend bien l'oreille, la ligne mélodique du lead vocal du chanteur est extrêmement compliquée. Ça a l'air simple, il y a énormément de nuances, et c'est là qu'on se rend compte qu'à l'époque, Elton John avait quand même une voix extraordinaire, c'est-à-dire capable d'aller dans les tessitures les plus hautes que dans les tessitures les plus basses, avec une maîtrise parfaite, et tout ça en jouant derrière son piano.
Voilà, et je crois que tout est dit. Merci beaucoup mon cher Dominique, on va refermer bien entendu la séquence avec ce titre Curtains, et rendez-vous dimanche prochain.
À dimanche prochain.
This old scarecrow, he was my song. My joy and sorrow. Cast along between the furrows of a field. No longer a song by summer burned the
Curtains, qui vient donc refermer notre spécial ici consacré à cet album, hein, Captain Fantastic et The Brown Dirt Cowboy. Dominique qui évoquait aussi le film Rocketman que je n'ai malheureusement pas encore vu, pas encore trouvé l'occasion de le voir. Et pourtant, Dieu sait si j'aime le cinéma et Dieu sait si j'aime la musique, donc évidemment. Mais bon, ça finira par arriver.
Découvrez d'autres podcasts bien rock'n'roll sur classique21.be.